Chapitre 11. Pour moi, je ne savais ce que c'était qu'une prison, et comme la grande majorité de mes frères, je n'avais guère songé à m'informer quel était le sort de ceux qui avaient commis des offenses contre la société ou qui avaient encouru ces soupçons. Oh, combien est désirable, en comparaison de ces tristes enceintes, le plus pauvre des abris où le journalier va se reposer de ses fatigues. Tout était nouveau pour moi. Ces portes massives, ces verrous et ces serrures retentissantes, ces passages sombres, ces fenêtres chargées de barreaux et les regards si caractéristiques des geôliers, où se peignent l'habitude du refus et le triple airain qui défend leur cœur contre tout sentiment de tendresse et de pitié. La curiosité et un désir de connaître ma situation me portèrent à fixer mes yeux sur leur figure, mais le moment d'après je les détournai avec un dégoût insurmontable. Il est impossible de dépeindre le genre de puanteur et de malpropreté qui distingue ces affreuses demeures. J'avais bien vu dans ma vie des logements négligés et malpropres, habités par des hommes dont la personne n'était pas mieux soignée, mais leur visage néanmoins portait l'empreinte de la santé, et on y lisait l'insouciance plutôt que le malheur. Mais la malpropreté d'une prison attriste l'âme et a déjà un caractère d'infection et de putridité. On me retint pendant plus d'une heure dans la chambre du geôlier, tandis que les guichetiers survenaient les uns après les autres pour se familiariser avec ma personne. On me regardait déjà comme coupable d'un crime capital d'une grande importance. En conséquence, on me fit subir une perquisition rigoureuse et on me prit un canif, une paire de ciseaux et tout ce que j'avais de monnaie d'or. On délibéra si ces objets ne seraient pas mis sous un scellé, pour m'être rendu, disait-on, aussitôt que je serais acquitté, et si je n'avais pas fait voir dans mes remontrances une vigueur et une fermeté à laquelle ils ne s'attendaient guère, telle était la marche qu'ils allaient continuer de suivre. Quand j'eus essuyé ces cérémonies, on me poussa dans une chambre où étaient assemblés tous ceux détenus pour crime capital, au nombre de 11. Chacun d'eux était trop occupé de ses réflexions pour faire attention à moi. De ces 11 prisonniers, 2 étaient là pour vol de chevaux, 3 pour avoir volé un mouton, 1 pour avoir forcé une boutique, 1 autre pour fausse monnaie, 2 pour vol de grand chemin et 2 pour vol avec effraction. Le voleur de chevaux était à faire une partie de cartes, qui fut interrompue par un différend survenu entre eux, accompagné de grandes vociférations et d'appels qu'ils faisaient aux uns et aux autres pour décider le coup, mais fort inutilement, car l'un ne les écoutait pas et l'autre les laissait au milieu de leur récit pour les porter loin de leur tapage, le tourment intérieur de son âme. C'est la coutume parmi les voleurs de former entre eux une espèce de tribunal burlesque dont chacun va prendre la décision pour savoir s'il sera acquitté, s'il aura répit ou grâce, ainsi que pour essayer la manière la plus adroite d'établir sa défense. Un des voleurs avec effraction qui avait déjà passé par cette épreuve était à se promener fièrement en long et en large dans la chambre avec un air de bravade, en criant à son camarade qu'il était aussi riche que le duc de Bedford, qu'il possédait 5 guinées et demie, ce qui était bien tout ce qu'il pourrait dépenser dans le mois, et que quant à ce qui arriverait après cela, c'était l'affaire de Jacques Ketch et non la sienne. En disant cela, il se jeta brusquement sur un banc qui était auprès de lui et parut s'endormir un moment. Mais son sommeil était agité, sa respiration était embarrassée et ressemblait de temps en temps à une sorte de gémissement. Un jeune homme de l'autre côté de la chambre s'en vint doucement avec un grand couteau dans sa main à l'endroit où celui-ci était couché, la tête pendante sur un des côtés du banc, et lui appuya sur le cou le dos de la lame avec tant de force que ce ne fut qu'après beaucoup d'efforts que l'autre put venir à bout de se relever. « Ma foi, Jacques, dit l'auteur de ce grossier badinage, encore un peu et ton affaire était faite. » Celui-ci, sans témoigner le moindre ressentiment, « Dieu te damne, lui dit-il d'un ton chagrin. « Pourquoi, diable, n'as-tu pas pris le tranchant? Ça aurait été le meilleur ouvrage que tu eusses fait depuis longtemps. » Il y avait une des personnes détenues pour vol de grand chemin, dont le cas était assez extraordinaire. C'était un simple soldat, de la physionomie la plus intéressante, âgé de 22 ans. Le plaignant qui avait été volé un soir en revenant très tard du cabaret, et à qui on avait pris 3 shillings, avait affirmé que ce jeune homme était son voleur. Il était difficile de trouver personne d'une réputation plus intacte que ce prisonnier. son esprit ne l'avait pas empêché de cultiver son esprit. La lecture de Virgile et d'Horace était son amusement favori. Il passait pour avoir une grande probité. Une dame l'avait une fois employé pour porter une somme de 1 000 livres à quelqu'un à plusieurs milles de distance. Une autre fois, un particulier lui avait confié, pendant son absence, la garde de sa maison et de son mobilier, qui valait au moins 5 fois cette somme. Dans sa manière de penser, il avait toujours montré un grand amour de la justice, beaucoup de candeur et de sagesse. Il avait gagné quelque argent à fourbir les armes de ses officiers, métier pour lequel il avait un talent particulier, mais il avait refusé le grade de sergent ou de caporal qui lui avait été offert, disant qu'il n'avait pas besoin d'argent, et que dans ce nouveau poste il aurait moins de loisirs à donner à l'étude. Il avait aussi refusé constamment des présents que voulaient lui faire des personnes frappées de son mérite. Non que ce fût de sa part orgueil ou fausse délicatesse, mais parce que, disait-il, il ne croyait pas devoir en conscience accepter des choses dont il ne sentait nullement avoir besoin. Cet aimable jeune homme mourut pendant que j'étais en prison. Je reçus son dernier soupir. J'étais obligé de passer la journée entière dans la compagnie de ces hommes dont quelques-uns avaient réellement commis les crimes dont ils étaient accusés, et les autres avaient été exposés aux soupçons par le malheur de leurs conditions. Le tout composait un spectacle de misère, dont il est impossible de se former une idée à moins de l'avoir sous les yeux. Les uns étaient extrêmement bruyants et cherchaient à s'étourdir par un faux air de courage sur l'idée de leur état, tandis que les autres, incapables même d'un tel effort, sentaient aggraver le tourment intérieur de leur esprit par le tumulte et le fracas continuel qui se faisait autour d'eux. Les figures de ceux qui affectaient le plus de résolution offraient encore un front sillonné par les soucis et les chagrins, et au milieu de leur gaieté forcée, de noires pensées qui survenaient à tout moment, leur renversaient les traits et faisaient prendre à chaque muscle de leur visage l'expression de la douleur la plus cuisante. Pour les habitants de cette triste enceinte, leur tour du soleil n'était pas celui de la joie. Un jour succédait à l'autre, mais leur déplorable condition était invariable. L'existence n'était pour eux qu'une longue scène de tristesse continue. Chaque moment était un moment d'angoisse, et cependant ils cherchaient encore à le prolonger, dans la crainte que l'instant d'après ne vînt leur apporter une destinée plus affreuse. Le souvenir du passé était accompagné de regrets insupportables, et chacun d'eux eût sacrifié avec plaisir un de ses bras pour avoir encore le choix de cet état de paix et de liberté qu'une folle conduite lui avait fait aliéner. Nous parlons d'instruments de torture. Les Anglais tirent vanité d'avoir banni de leur île fortunée cet usage monstrueux. Hélas ! Celui qui a pu voir l'intérieur d'une prison peut dire si toute l'activité des fouets et toute l'industrie des questionnaires sauraient jamais infliger de torture comparable à l'agonie lente et silencieuse dans laquelle un prisonnier traîne son intolérable existence. Tels étaient nos jours. Au soleil couché paraissaient nos geôliers qui ordonnaient à chacun de se retirer pour être enfermé dans son cachot. C'était une circonstance qui aggravait cruellement notre sort, que d'être sous la discipline arbitraire de ces êtres durs et despotiques. Jamais hommes ne furent aussi étrangers à toute idée de sensibilité et de commisération. Ils prenaient un plaisir barbare à donner leurs ordres détestés et à observer la répugnance avec laquelle on y obéissait. Quand ils avaient parlé, il n'y avait pas à répliquer. Les fers, le pain et l'eau étaient la suite immanquable de la moindre résistance. Leur tyrannie n'avait d'autre borne que leurs caprices. À qui en appellerait le malheureux prisonnier? Ira-t-il se plaindre quand il a la certitude que ses plaintes ne seront pas entendues? Une histoire de rébellion et la nécessité de prendre des précautions sont pour le geôlier un infaillible refuge et forment une barrière insurmontable contre toute espèce de réparation. Nos cachots étaient des cellules de 7 pieds sur 10, creusées plus bas que la terre, humides, sans aucune ouverture pour l'air ou la lumière, si ce n'est quelques trous pratiqués dans la porte. Dans quelques-uns de ces affreux réceptacles, on entassait 3 personnes ensemble pour dormir. Je fus assez heureux pour en avoir un à moi tout seul. Nous étions à l'approche de l'hiver. On ne nous permettait pas d'avoir de chandelle, et comme je l'ai dit, on nous enfermait dès le soleil couché, et on ne nous délivrait que le lendemain au jour. C'était là notre situation pendant 14 ou 15 heures sur 24. je n'avais dans aucun temps été accoutumé à dormir plus de 6 ou 7 heures, et alors j'avais moins de penchant au sommeil que jamais. Ainsi, j'étais réduit à passer la moitié de ma journée dans cette effroyable demeure et dans une obscurité complète, ce qui ne laissait pas d'ajouter à la dureté de mon sort. Au milieu de mes sombres réflexions, j'exerçais ma mémoire à compter les portes, les ferrures, les verrous, les chaînes, les murs épais, les barreaux et les grilles qui se trouvaient entre moi et la liberté. Voilà donc, me disais-je, les instruments que la tyrannie, dans le recueillement de ses froides méditations, se plaît à inventer. Voilà l'empire que l'homme exerce sur l'homme. C'est ainsi que l'on tient dans les liens et dans la torpeur un être né pour développer et agrandir toutes ses facultés. Qu'ils doivent être dépravés ou stupides, celui qui ose soutenir ce système d'oppression, où la santé, la gaieté, la sérénité de l'homme vont se perdre sous la fétidité mortelle d'un cachot et sous les rides profondes des ennuis et du désespoir. Grâce au ciel, dit l'Anglais, nous n'avons pas de Bastille. Grâce au ciel, chez nous, aucun homme n'est puni s'il n'est criminel. Misérable insensé, est-ce une terre de liberté que celle où des milliers d'hommes languissent dans les cachots et dans les chaînes? Bah, bah, ignorant enthousiaste, va t'instruire dans nos prisons, apprends à connaître leur insalubrité, leur puanteur, la tyrannie de ceux qui les gouvernent, la misère de ceux qui les habitent. Reviens après ce spectacle et montre-moi quelqu'un assez éhonté pour dire encore, d'un air triomphant, « L'Angleterre n'a pas de Bastille ». Y a-t-il une accusation si légère, si frivole, qui n'expose un homme à être plongé dans ses épouvantables demeures? Y a-t-il quelque basse noirceur qui n'ait pas été mise en œuvre par les officiers de justice et par les accusateurs? Mais peut-être, m'allez-vous dire, contre toutes ces injures, on obtient des réparations. Des réparations! Ce mot même est le comble de l'insulte. Quoi? Ce malheureux réduit au dernier désespoir, qui ne s'est vu acquitter qu'au moment où la langueur et la misère allaient éteindre en lui les restes de la vie, ira poursuivre des réparations? Où trouvera-t-il assez de loisirs et surtout assez d'argent pour salarier les agents et les ministres de la loi et pour payer ce remède si lent et toujours si chèrement acheté? Non, non, il est trop heureux de laisser derrière lui son cachot et l'affreux souvenir des moments qu'il y a passés. La même suite d'oppression et d'injustice sera l'héritage de l'infortuné qui vient prendre sa place. Pour moi, je contemplais les murs tout autour de moi et ma pensée devançait déjà la mort prématurée que tout me présageait. Je redescendais au fond de mon cœur, je n'y trouvais rien que de l'innocence et je me disais « Voilà donc ce que c'est que la société, voilà cette distribution de justice qui est le but de la raison humaine, voilà le fruit des méditations des sages, l'ouvrage auquel ils ont consacré tant de veilles, le voilà !» Le lecteur me pardonnera de m'être écarté du principal sujet de mon histoire par cette digression. S'il trouvait que je me suis laissé aller à des remarques générales, qu'il se souvienne que celles-ci sont le résultat d'une expérience chèrement payée. C'est de la plénitude d'un cœur qui ne peut plus se contenir que l'invective coule de ma plume. Ce ne sont pas les déclamations d'un homme qui prétend à l'éloquence. Cet esclavage de fer a pesé de tout son poids sur mon âme. Je ne pouvais pas croire qu'un lot aussi complet de misère et d'infortune fût jamais tombé en partage à aucune créature humaine. Je me rappelais avec surprise mon empressement puéril à faire juger ma conduite et à démontrer mon innocence. Je le détestais comme l'effet de la plus sotte et de la plus insoutenable pédanterie. Je m'écriais, dans l'amertume de mon cœur, « Eh, qu'est-ce que donc que la réputation? C'est un hochet d'enfant pour amuser les hommes. » Si j'avais su mépriser cette chimère, je pourrais jouir de la tranquillité de mon cœur, goûter les biens de la paix et de la liberté, et entretenir dans de douces occupations l'activité de mon esprit. Et pourquoi soumettre mon bonheur à l'arbitrage des autres? Mais quand même une bonne réputation serait un bien de la plus haute valeur, un pareil moyen de la recouvrer ne serait-il pas réprouvé par le sens commun? Le langage que ces institutions tiennent à l'infortuné qui les invoque n'est-il pas celui-ci? Allons, sois privé de la lumière du jour. Associe-toi à ceux que la société a marqués comme les objets de son exécration. Rends-toi l'esclave des geôliers, Laisse-toi charger de chaînes, ensuite tu pourras espérer d'être purgé d'une injuste accusation et de recouvrer l'honneur et la réputation. Tels sont donc les moyens de consolation qu'offre la loi à ceux que la méchanceté ou la sottise, une animosité privée ou une assertion indiscrète font gémir, sans le plus léger fondement, sous le poids de la calomnie. Pour mon compte, j'étais bien certain de mon innocence, et l'examen m'a bientôt fait voir que les trois quarts de ceux qui sont habituellement assujettis à un traitement semblable sont des personnes contre lesquelles nos cours de justice, malgré leur morosité et leur précipitation, ne trouvent pas assez de preuves pour opérer une conviction. Il faut donc qu'un homme soit bien mal instruit, ou bien dépourvu de jugement pour commettre au hasard d'une telle protection son honneur et sa destinée. Mais je me trouvais dans un cas encore bien plus désespéré. J'étais intimement convaincu qu'un examen tel que ces institutions peuvent le faire devait répondre dignement à ces odieux préliminaires. Après les souffrances que j'endurais, quelle chance avais-je pour espérer d'être acquitté? Quelle probabilité y avait-il que les juges, devant lesquels j'aurais à paraître, m'écouteraient plus favorablement que ceux qui avaient déjà prononcé sur ma cause dans la maison de M. Falkland? Non. Non, je voyais déjà ma condamnation prononcée. Ainsi dépouillé de tous les biens que donne l'existence, déchu de ces belles espérances auxquelles je m'étais si souvent livré, arraché de cette carrière d'honneur et de vertu au-devant de laquelle mon âme ardente aimait tant à s'élancer, tout ce que m'offrait l'avenir, c'était quelques semaines consommées dans ce lieu misérable pour aller ensuite recevoir la mort des mains de l'exécuteur public. Il n'y a pas de langage pour exprimer l'indignation et le dégoût intolérable que ces idées excitaient dans mon âme. Mon ressentiment ne s'arrêtait pas à mon persécuteur, il s'étendait à la machine sociale tout entière. Je ne pouvais croire que tout ce qui m'arrivait fût le résultat d'institutions inséparables du bien général. Toute l'espèce humaine me paraissait composée de questionnaires et de bourreaux. Je les regardais tous comme conjurés pour me déchirer en pièces, et cet immense théâtre d'une persécution inexorable me jetait dans un état d'angoisse impossible à décrire. J'examinais tour à tour ma situation sous ses deux faces. J'étais innocent, j'avais droit à l'assistance des hommes, mais je ne voyais pas un cœur qui ne fût endurci contre moi, pas un bras qui ne fût prêt à précipiter ma ruine. Un homme qui n'a pas senti, dans les plus grands intérêts de sa vie, la justice, l'éternelle vérité, l'inaltérable équité, lié inséparablement à sa cause, et d'un autre côté la force brutale, l'opiniâtreté stupide et l'inaccessible insolence conjurée contre lui, ne peut pas imaginer ce qui se passait en moi. Je voyais la perfidie et le mensonge rayonnant d'honneur et de gloire. Je voyais la faible innocence broyée en poussière sous la main toute-puissante du crime. Où pouvais-je chercher du soulagement à tant de maux? Était-ce au milieu de ce chaos de licence et d'exécration où je passais la journée, et où chaque figure me réfléchissait l'image d'une angoisse qui ne le cédait qu'à la mienne? Celui qui voudrait se former une idée des régions infernales n'aurait besoin que d'assister pendant quelques heures à l'affreux spectacle que j'ai eu sous les yeux pendant plusieurs mois. Il ne m'était pas permis de me soustraire un moment à cette complication d'horreur, ni de me réfugier dans le calme de la méditation. L'air, l'exercice, l'attention, la variété d'objets, tous ces grands mobiles de l'activité de l'homme m'étaient interdits pour toujours par l'inexorable tyrannie qui me tenait en son pouvoir. La solitude de mon cachet nocturne n'était pas moins insupportable. Je n'y avais pas d'autre meuble que la paille qui servait à mon repos. Il était étroit, humide et malsain. Un esprit excédé comme le mien par la plus accablante uniformité, auquel ne s'offrait jamais ni amusement ni occupation pour tromper l'ennui de ces pénibles heures, ne pouvait trouver qu'un sommeil court, agité et peu propre à rafraîchir les sens. La perplexité et le désordre de mon imagination me tourmentaient encore plus dans mes rêves que dans les pensées de mes veilles. À ces intervalles de sommeil succédaient les heures que le régime de la prison m'obligeait de passer, quoique éveillé dans ces ténèbres solitaires. Là, je n'avais ni livre, ni plume, ni rien propre à fixer mon attention. C'était l'uniformité du néant. Quel supplice pour un esprit actif et infatigable! Je ne pouvais pas le plonger dans la léthargie. Je ne pouvais pas le distraire de mes malheurs. cette horrible image me poursuivait sans relâche avec la malignité d'une furie. Barbare, inexorable politique des institutions humaines qui condamne un homme à des tourments aussi douloureux, qui les sanctionne au moins par sa coupable indifférence, qui dédaigne de descendre à ces détails, qui ose nommer ceci le creuset de l'innocence et la sauvegarde de la liberté. Mille fois, j'aurais brisé ma tête proscrite contre les murs de mon cachot. Mille fois, j'ai soupiré après la mort et j'ai embrassé avec une ardeur inexprimable l'espoir de trouver un terme à mon horrible martyr. Mille fois, j'ai formé le projet de porter sur moi-même une main homicide et j'ai délibéré, dans l'amertume de mon âme, sur les différents moyens de secouer le fardeau de l'existence. Qu'avais-je à faire avec la vie? J'en avais assez vu pour ne plus la regarder qu'avec horreur. Pourquoi attendrais-je les lentes formalités du despotisme légal? N'oserais-je donc mourir qu'au moment et de la manière décrétée par ces odieux ministres? Cependant, une puissance inexplicable retenait mon bras. Avec l'ardeur du désespoir, je m'accrochais encore à ce fantôme d'existence, à son charme incompréhensible et à ses vaines illusions.